Vous écoutez France Culture. France Culture, il est 14h, l'heure des sciences, du lundi au vendredi. Aujourd'hui, Continent Science par Stéphane Delisgeorges.
Et oui, comme tous les lundis, en direct du studio 168 de la Maison de la Radio, 167 pardon, en direct donc de la Maison de la Radio Continent Science, qui ouvre tous les rendez-vous scientifiques de la semaine en début d'après-midi à 14h. Bonjour à toutes, bonjour à tous. À notre programme aujourd'hui, bien évidemment, comme à l'ordinaire, tout à l'heure avec Florian Delorme, ouverture de l'espace critique. Et puis pour le grand entretien aujourd'hui, en présence de Daniel Boursier et de Pak Van Andel, j'espère que je prononce bien, il me corrigera. Mais tout de suite, comme à l'ordinaire, la grande chronique animalière. Pour cette chronique animalière, aujourd'hui, je retiens le rat taupe nu, alias Heterocephalus glaber, rongeur qui, pour beaucoup, est le comble du disgracieux, puisque, comme son nom l'indique, il est tout à fait glabre, avec des dents proéminentes. En fait, il n'est donc pas beau, être glabre, vivant en Afrique de l'Est, mais il est l'unique mammifère à être eusocial. C'est-à-dire qu'il connaît en effet un mode d'organisation sociale qui fait qu'un même groupe d'individus vivant ensemble est divisé en castes d'individus fertiles et non fertiles, et cela bien sûr à l'instar des fourmis. Mais le rat taupe nu présente une particularité des plus étonnantes. Il connaît une longévité exceptionnelle. Il peut vivre jusqu'à 30 ans, soit 30 fois plus longtemps qu'une souris. La clé de la longévité du rat taupe nu résiderait dans la résistance et la stabilité de ses protéines. Des chercheurs ont prélevé des morceaux de foie chez l'animal et chez la souris avant de comparer l'état de leurs protéines. Ces dernières se sont révélées 10 fois moins endommagées chez le rat taupe nu. Et de plus, sa machinerie de recyclage des protéines s'est montrée beaucoup plus efficace, ce qui lui permettrait de mieux résister au stress oxydatif, le processus, comme l'on sait, pour lequel des radicaux libres s'accumulent progressivement dans un organisme en faisant l'un des facteurs majeurs du vieillissement. Bref, Heterocephalus glaber n'a, semble-t-il, jamais de cancer. Et pour étudier cette incroyable spécificité, les chercheurs ont tenté de cultiver in vitro les cellules du rat taupe, et sans succès. Plus exactement, chez lui, une solution cellulaire diluée est capable de croître, bien sûr. Mais très rapidement, cette croissance stoppe quand une certaine densité cellulaire est atteinte. Cette capacité qui est connue correspond au contact dit d'inhibition existant également chez l'homme. Et ce phénomène permet de limiter la prolifération cellulaire et donc l'apparition d'un cancer. Chez le rat taupe nu, le contact d'inhibition cellulaire est contrôlé par deux gènes. L'un est nommé P16 et l'autre P27. Et cela contrairement à l'homme où il n'y a que le gène P27 qui est impliqué. On peut donc supposer que ce deuxième gène constitue une barrière supplémentaire à la progression des cellules cancéreuses et que sa stimulation serait donc des plus bénéfiques. On peut imaginer une application de cette découverte chez l'homme. Elle pourrait ainsi servir de traitement médical. Bonjour Daniel Boursier.
Bonjour.
Bonjour Pak Van Andel. Rapprochez-vous du micro.
Bonjour.
Rapprochez-vous qu'on vous entende bien.
Vous avez raison.
Alors nous voilà réunis autour de quelque chose que peu de monde connaît. C'est un phénomène que l'on retrouve dans beaucoup de domaines, ce phénomène-là, en particulier évidemment dans les sciences. C'est là où ça va nous occuper majoritairement. Il s'agit de la sérendipité. Alors, vous avez publié un ouvrage aux éditions L'Acte Même qui s'intitule de cette façon, de la sérendipité dans la science, la technique, l'art et le droit. Et comme sous-titre, leçon de l'inattendu. Alors ce que je vous propose évidemment, c'est de, d'une certaine manière, de donner d'abord une première définition, en première approximation. Alors je reprends ce que vous dites. D'abord cette phrase que, d'une certaine façon, et c'est une sorte d'aphorisme intéressant, que la sérendipité est inhérente à la condition humaine. Donc je vous demanderai peut-être à vous, Daniel Boursier, de commenter ça. Et puis surtout, et c'est le petit catalogue de ce qu'on va développer, c'est la capacité de, et c'est comme si j'écrivais tous ces mots en capital, découvrir, inventer, créer, imaginer quelque chose, et c'est là le point important, de nouveau sans l'avoir cherché. Alors, Daniel Boursier, définition, c'est vraiment inhérent à l'homme ?
Oui, bien sûr, je crois que c'est la sérendipité est inhérente à l'homme. On peut en effet difficilement penser l'évolution humaine sans ces constantes strates et ces constantes étapes, ces bifurcations. Et je pense que l'imagination, la créativité, c'est une des clés de l'évolution humaine, tant au niveau génétique, à toutes les échelles, je crois, de l'évolution humaine, y compris de la créativité et de la production des œuvres.
Alors, citation cette fois des sophistes, on remonte dans le temps, qui ont à peu près vu la chose, d'une certaine façon. Ils disent, on ne peut pas chercher ce que l'on ne connaît pas, évidemment, parce qu'on ne sait pas ce qui doit être cherché, ou ce qu'on doit chercher. Pour découvrir quelque chose de nouveau, disent-ils, on ne peut pas dériver le nouveau de l'ancien, ni le connu de l'inconnu, si évidemment l'objet de la découverte est absolument inattendu, et donc l'objet justement de ce phénomène tombant sous la sérendipité. Alors, on peut peut-être... Petite précision, vous êtes deux auteurs, Daniel Boursier, vous êtes plutôt vous du côté, vous êtes de formation linguiste, plutôt tourné du côté des sciences, le mot est vilain, mais enfin bon, des sciences molles. Alors que vous, Peter Van Andel, vous êtes plutôt du côté des sciences dures.
Oui, je suis un chercheur en médecine. Et j'ai travaillé toute ma vie comme chercheur en médecine. Et la sérendipité était un peu spielerei nebenbei. C'était pour m'amuser et aussi pour apprendre. Mais je veux ajouter quelque chose.
Ajoutez.
Pour moi, la sérendipité est intrinsèque à l'homme. Comme la stupidité, par exemple. Et c'est un point commun avec la stupidité. C'est un phénomène post hoc. Seulement après, a posteriori, on peut juger quelque chose comme une stupidité incidentelle ou structurelle ou une sérendipité. Et un beau cas de sérendipité ou stupidité a aussi un côté littéraire. Vous voyez ? Parce que par définition, il y a une frappe. Comme dans la stupidité, dans la sérendipité, il y a toujours quelque chose d'inattendu, par définition. Et aux Pays-Bas, il y a un Matthijs van Boksel, il vit de la stupidité, et je corresponds beaucoup avec lui, parce que quelqu'un qui fait une trouvaille, et il le publie, il y a une réaction de quelqu'un qui a observé des signes pour ça, sans mettre son nez là-dedans. Röntgen, quand il a publié ses rayons X, il y avait 5 groupes et individus qui auraient aussi été capables de le découvrir sans le faire. Oui. Vous voyez ? Et Fleming aussi, il y a
N'anticipez pas, d'accord. On va venir évidemment à tous ces cas. Vous avez prononcé Röntgen, on va dire Röntgen, c'est comme ça qu'on le prononce en français, pour que qu'on nous comprenne. Donc le découvreur, évidemment, des rayons X, avec cette photo très étonnante, on va le voir, de la main de sa femme, ou plus exactement du squelette de la main de sa femme, avec la bague qui était donc impressionnée. Alors, on peut peut-être, Daniel Boursier, tout de suite donner la généalogie de la chose. Parce que, évidemment, il faut donner l'étymologie d'abord. Sérendipité, ça se forme à partir de sérendip.
Oui, et qu'est-ce que sérendip ?
Alors, voilà. Qu'est-ce que c'est que sérendip ? Alors, nous voilà avec un auteur persan qui raconte un conte de Ceylan.
Alors, effectivement, le mot sérendip, c'est l'ancien mot pour l'île de Ceylan, c'est-à-dire Sri Lanka maintenant. Et toute l'histoire, en fait, des trois présents sérendipes, et le mot sérendipe vient de cette origine. Et si vous voulez, je veux me faire un plaisir de vous raconter cette histoire.
Faites.
Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, dans ce conte qui est paru d'ailleurs en 1302, peu importe, on va directement raconter cette histoire. De quoi s'agit-il? Eh bien, le roi de Sérendipe avait trois fils et il leur a proposé un jour de prendre le pouvoir. Et de façon assez étonnante, que le conte ne raconte pas, les trois fils, pour des raisons différentes, ne veulent pas du pouvoir. Alors, le roi les chasse, les expulse et leur conseille d'aller voir de par le monde les merveilles et de revenir quand ils auront réfléchi.
L'exil donc, est pour eux, c'est ça, il les
voilà,
fout dehors.
C'est le grand tour, hein, c'est la tradition du grand tour, du voyage, de la pérégrination. Et d'ailleurs, cette notion de pérégrination, de voyage, et traverse toute l'histoire de la sérendipité. Il y a une histoire de voyage, une histoire de processus. Alors, donc, ces trois fils partent à pied de par le monde. Et un jour, ils passent sur les traces d'un chameau. Et l'aîné observe que l'herbe qui est à gauche de la trace est broutée, mais que l'herbe de l'autre côté ne l'est pas. Et qu'est-ce qu'il en conclut? Que le chameau, évidemment, ne voit pas de l'œil droit. Le cadet remarque ensuite, sur le bord gauche donc, du chemin, des morceaux d'herbe broutés, mâchés, de la taille d'une dent. Et qu'est-ce qu'il en conclut? Eh bien, que le chameau pouvait avoir effectivement perdu une dent. Quant au Benjamin, il infère, du fait des traces des pieds de chameau qui sont inégales, des empreintes si vous, qui sont inégales sur le sable, que le chameau boitait. Et il continue, et tout en marchant, un des frères observe autre chose. Il observe des colonnes de fourmis sur le bord de la route. Et de l'autre côté, des abeilles, des mouches, d'autres colonnes. Et alors, qu'est-ce qu'il en déduit? Il en déduit que le chameau était sûrement chargé d'un côté de beurre, pour les fourmis, de l'autre côté du miel. Ensuite, l'histoire, vous inquiétez pas, c'est pas une histoire des mille et une nuits.
Passionnante.
Le deuxième frère découvre ensuite d'autres signes, et il découvre notamment que quelqu'un s'est accroupi, et il voit notamment qu'il y a l'empreinte d'un petit pied auprès d'une flaque humide, dit le comte. Et à ce moment-là, ce frère regarde cet endroit mouillé, il est envahi donc d'une certaine perplexité, et il en conclut que, vu la grandeur des petits pieds, justement, c'était sûrement une femme qui était sur le chameau, et pas un homme. Et enfin, le troisième frère remarque sur ses empreintes que la femme ne pouvait être qu'enceinte parce qu'elle avait utilisé aussi ses mains pour se relever. Alors, vous voyez, tous ces signes, finalement, sont extrêmement intéressants. Ce sont les traces. La notion de trace aussi est très intéressante. Et alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, les trois frères, ils rencontrent un conducteur de chameau complètement affolé qui, lui, avait perdu son chameau, son animal. Et alors, comme boutade, pour s'amuser, que font ces trois frères? Lui dit, écoutez, je crois que nous connaissons votre chameau. Et pour crédibiliser leur blague, ils énumèrent les 7 signes qui caractérisaient ce chameau. Et évidemment, le chamelier les prend pour des voleurs, dit « Vous avez vu mon chameau, donc je vous mets en prison ». Alors, les voilà tous en prison, et finalement, que se passe-t-il? Eh bien, le chameau est retrouvé, et à ce moment-là, le roi de ce pays demande, effectivement, là encore un autre récit, « Comment avez-vous fait pour décrire un chameau que vous n'avez jamais vu ?» Et ça, c'est décrire quelque chose qu'on n'a pas vu, c'est aussi une grande constante dans l'histoire de la sérendipité.
Ah, c'est évidemment une belle histoire à plus d'un titre, d'abord parce que c'est évidemment l'opportunité de bien regarder les indices, d'être capable de tirer des inférences subtiles. Ils sont forts, hein, les trois princes. Hein.
Ils ont eu une éducation solide.
Oui, ah oui, très solide.
Mieux qu'aujourd'hui. Hein.
C'est des bons logiciens et c'est des bons interprètes des signes. Et puis, bien sûr, ce qui est peut-être l'un des nerfs de la guerre dans cette affaire, c'est qu'ils tombent sur ces traces du chameau avec ses traits d'identité par hasard.
Alors,
évidemment, voilà, le hasard arrive.
Alors cette question du hasard, effectivement, elle apparaît aussi dans l'histoire de la sérendipité. Et d'ailleurs, on a certaines traductions qui, au sujet de la sérendipité, ce sont des hasards heureux. Alors, happy accidents. Mais nous, on a un petit doute avec la notion de hasard.
Oui.
On considère que le hasard, effectivement, est un moment du processus de sérendipité, de découverte, mais qu'il a quelquefois trop d'importance, on lui accorde trop d'importance. Pour nous, on considère qu'il y a en fait trois phases assez distinctes dans cette histoire, dans ce processus de découverte par sérendipité. Il y a une première phase qui est une phase de préparation, on va dire d'attention, de perception, d'état dans lequel on va pouvoir regarder ce qu'on n'attend pas, ce qui est quand même un état, bon, dans toutes les histoires des religions, etc., il y a cet état-là qu'il faut obtenir. Ça peut être aussi une préparation intellectuelle, hein, et ça, c'est encore une autre chose. Et puis, il arrive quelque chose, et ça, on peut dire, effectivement, c'est le hasard. C'est un point dans le temps et dans l'espace. Mais les hasards, on rencontre des hasards toute la journée. Et qu'est-ce qu'on en fait ? Pas grand-chose. Donc, il y a un troisième moment qui est, que fait-on de ce hasard-là ? Compte tenu de cette préparation, de ce qu'on connaît, de notre attente, de cette perception, ce hasard qui arrive, et puis, qu'est-ce qu'on va en faire ? Et c'est pour ça que nous, on insiste beaucoup sur cette idée de l'interprétation.
D'accord.
Du phénomène.
Alors, petit point, et après je me tournerai, petit point de précision, et après je me tournerai vers Peg van Andel pour rentrer entre ce qu'on peut appeler pompeusement l'épistémologie de cette affaire. Tout d'abord, on peut peut-être rappeler, si vous êtes d'accord, Daniel Boursier, que ce conteur persan s'appelle Amir Khusraw.
Exactement.
Qu'on a trouvé ensuite le rôle joué par un personnage très important qui est Horace Walpole. Mm-hmm. Un Anglais qui a plein de malice d'ailleurs pour savoir lire les choses quand il se balade en Italie. Et puis aussi, alors on ne peut pas éviter, parce que là il a un peu pompé, mais en modifiant le tout, puis c'est tellement drôle, il y a une partie de Zadig du petit énervé de Fernel, Voltaire, qui donc, là encore, fait jouer la sérendipité. Mais il faut aller vite. Alors, ce que je vous propose tout de suite, c'est de regarder, alors je reprends évidemment les conditions ou les règles, si on peut dire, de la découverte par sérendipité. Le donné est avant tout non anticipé. Eh bien oui, il faut qu'on tombe sur un truc qu'on n'attendait pas. Bon.
Oui, et pour ça, il faut avoir de connaissances, parce que pour juger si quelque chose est attendu ou non, il faut savoir qu'est-ce qu'on peut attendre normalement.
Oui. Seconde règle, recherche dirigée pour tester une hypothèse produite par un effet secondaire. Alors on fait une expérience, on attend un effet, là c'est le schéma habituel de causalité, on a une cause, on a un effet, puis pof, il y a dans les effets, il y a un effet secondaire tout à fait inattendu.
Oui.
Bingo!
Oui, non, c'est pas bingo. Bingo. Quand on trouve ce qu'on cherche, on dit Eureka.
Oui.
Mais quand on fait une observation surprenante, on dit ciel.
D'accord.
Et Alexander Fleming, il disait « that's funny ». Il disait ça à quelqu'un, c'est documenté. Et Shell lui dit « mais qu'est-ce qui se passe ici ?» Et quand on est confronté avec une observation surprenante, un bon chercheur, parce qu'il y en a beaucoup, il se dit, même les mauvais, il se dit « mais qu'est-ce qui se passe ici ?»
Oui.
Et il s'imagine quelque chose, et une hypothèse, une abduction, et après il essaye à confirmer, à valider cette hypothèse. Et Aristote, il donne déjà un exemple. Il dit « quand on voit les visages différents de la Lune, il faut imaginer que la Lune est peut-être un miroir pour le Soleil. Et après, on peut le tester. Et chaque fois qu'on voit la Lune, on peut dire, mais est-ce que la côté qui donne de la lumière est un peu dirigée par le Soleil, vous voyez ?
Mm-hmm.
C'est très beau. Et le Grec qui a eu cette idée, son nom est connu. Il donne un autre exemple, c'est un homme pauvre qui parle avec un homme riche. Et Aristote, il se demande, qu'est-ce qui se passe ici ? Peut-être le pauvre veut prêter de l'argent de l'homme riche, hein, le microcrédit. Le monde ne change pas, vous voyez.
Alors, évidemment, vous avez dit, ce n'est pas un mot qui fâche, vous avez dit le mot Peg van Andel d'abduction, on va y revenir tout de suite. Mais là, je vais me faire, pas du tout l'avocat du diable, mais d'expliquer comment les choses se passent peut-être dans le cours ordinaire, quoique je mettrais beaucoup de guillemets à ce mot ordinaire dans le développement des sciences. Pour des sciences qui sont constituées de façon très très ferme, très dure, très contrainte, alors je pense bien évidemment par exemple à la physique théorique, et en particulier à la physique théorique qui va s'occuper de la physique des particules. Lorsqu'on construit, en particulier pour tester une première grande unification au CERN à Genève, on attend qu'apparaisse dans le choc des deux faisceaux quelque chose qui va s'appeler, et ça va être l'agent de cette force unifiée, le boson X ou le boson Z. Là, il n'y a pas eu de surprise. Cet article a été signé par 100 chercheurs. 100. Et tout le monde attendait évidemment l'apparition de ce boson qui était au rendez-vous. Et il a été ensuite produit de façon totalement industrielle. Donc on voit très bien que dans beaucoup de cas, les hypothèses sont extrêmement fortes, structurées par de la physique ou par de la théorie qui encadre de façon extrêmement ferme l'expérience. Et là, d'une certaine manière, il n'y a pas eu de place évidemment pour la sérendipité. Mais peut-être, on peut toujours dire que même dans ce cas-là, après tout, il n'y aurait peut-être pas eu de boson et il y aurait pu y avoir quelque chose de bizarre. Mais en tout cas, c'est pour caractériser par contraste ce que je viens de dire, ce que c'est qu'une recherche qui, elle, ne laisse rien d'une certaine façon ou laisse très peu de chance à la sérendipité.
Non, il y a grosso modo, il y a trois routes à trouver quelque chose de neuf. On trouve ce qu'on cherche sans que le hasard joue un rôle, comme Yersin, il était élève de Pasteur, oui. Il a trouvé la cause de la peste dans une semaine parce qu'il se demandait mais est-ce que c'est une infection ou non. Et il partait avec la bonne théorie de Pasteur. Et le hasard joue
c'était
aucun
Vietnam,
rôle.
Hein c'était au Vietnam.
Moi, j'appelle ça le non-sérendipité. Et à l'autre côté, il y a le sérendipité pur, on trouve ce qu'on ne cherchait pas. Et dans le cas idéal, c'était neuf pour tout le monde, comme les rayons X. Les physiques, il n'y avait aucune idée de la physique connue dans cette année qu'il y aurait quelque chose comme les rayons X. C'était tout, ça tombait du ciel. Et entre les deux, il y a le pseudo-sérendipité. On trouve ce qu'on cherche, mais par un hasard. Fleming, il cherchait ce qu'on appelle maintenant un antibiotique, sans succès. Il avait trouvé le lysozyme, c'était pour les bactéries non pathogènes, et il faisait des expériences parce qu'il voulait écrire un chapitre pour un livre, et ça, c'était le contexte dans lequel il voyait quelque chose totalement inattendu, et il dit... j'ai lu ça dans le livre de André Mauroy, il dit il ne faut pas penser que l'espoir me disait regarde, on est en train de mourir. Faire une trouvaille, une pseudo-sérendipité peut être génial aussi. Comme Goodyear, il a trouvé ce qu'on appelle maintenant la vulcanisation de caoutchouc.
Oui.
Il mélangeait de latex chauffé avec du sulfure, il le tournait sur une poêle et il y avait une quantité qui tombait, qui sortait le pot. Et c'était brûlé. Il regardait bien et la surface était brûlée, mais là-dessous, le caoutchouc était changé. C'est ce qu'on appelle maintenant la vulcanisation.
C'est un
exemple classique de pseudo-sérendipité.
Oui.
Et j'ai lu son livre et il dit « Le liseur pense maintenant que j'ai trouvé ça par hasard, mais je ne suis pas d'accord. Le Dieu a vu que j'étais très judicieux. Il m'a aidé comme ça. » C'est très beau.
Alors cela dit,
c'est très américain aussi.
Cela dit, les Indiens vivant en Amazonie savaient déjà se faire des bottes en caoutchouc. Ils avaient découvert, alors je ne sais pas si c'est par sérendipité, mais en tout cas, ils savaient le faire. Alors cela dit, pour revenir aussi, pour continuer ce rendez-vous d'aujourd'hui, toujours sur la sérendipité, sur France Culture, ce rendez-vous de Continent Science, en présence de Daniel Boursier et de Peck Van Andel, vous faites beaucoup de gestes, hein, comme un latin. Hein. Pourtant, on pourrait croire spontanément que c'est plutôt les Italiens, voire les Français.
C'est un sujet qui m'excite parce que, comme étudiant, j'étais à Pakistan et on m'a mis dans une prison parce que je faisais des choses qui étaient suspectes, comme les princes, tu vois. Et je peux me totalement identifier avec ces trois aristocrates, on dirait aujourd'hui.
D'accord. Alors, il y a sur le. Il y a un très bel ex libris d'un auteur absolument passionnant, bien sûr, qui était tout à fait convaincu des découvertes d'une certaine manière fortuites, inattendues, en tout cas où il fallait se mettre à les rechercher dans tous les sens. Il s'agit de Bacon, et en particulier dont cet ex libris montre, et ça, donc c'est ce qui m'y fait penser, Daniel Boursier, un navire, un bateau qui va sur les mers. Et c'est une très jolie petite vignette. Et vous avez parlé tout à l'heure de voyage. Alors, juste pour faire une incise, on va revenir après à l'épistémologie de cette question. Eh bien, d'une certaine façon, peut-être que l'exemple plus gigantesque de sérendipité, c'est Christophe Colomb, qui croit partir pour trouver une route plus courte pour rejoindre les Indes, et puis qui va mourir sans savoir qu'il a découvert un continent. Oui. C'est incroyable, ça.
Très bon. Je pense qu'on ne sait pas, effectivement, qu'en fait, il est mort sans savoir. Et ça ne l'a pas empêché, d'ailleurs, de poursuivre de façon obstinée hein, son projet.
Quatre voyages.
Exactement. Et jusqu'à la fin, il a pas su qu'il avait découvert l'Amérique. Il a fallu que ce soit Vespucci, hein, Amerigo Vespucci, qui a d'ailleurs laissé son nom à ce nouveau continent et qui, lui, a poursuivi, hein, en fait, ce que ce génial explorateur n'a pas tout à fait transformé, hein, comme on dit en rugby. d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on s'aperçoit que la sérendipité, ça peut être un processus à plusieurs et dans le temps. Vous voyez.
Oui, c'est ça.
Il n'y a pas un moment unique. Quelquefois, bon, on a parlé de Röntgen, bon, ça effectivement, mais très souvent, la sérendipité se fait à plusieurs et même dans le temps, et même à des moments différents et parallèles d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a des découvertes au même moment par des gens différents. Ça, c'est encore plus étrange.
Alors, on continue. Vous avez fait un recensement très très exhaustif, l'un et l'autre, en particulier donc chez beaucoup de scientifiques différents, qui montrent, et là je trouve que la citation est jolie, il s'agit du grand chimiste Priestley, chimiste anglais, qui dit « C'est en poursuivant de fausses lueurs qu'on peut découvrir des vérités importantes. » Évidemment, il est co-découvreur, bien sûr, avec Lavoisier de l'oxygène. C'est en poursuivant de fausses lueurs. Ça, c'est une posture heuristique qui est quand même très intéressante, non ?
Oui, et c'est ce qu'on considère être au cœur même de la créativité, si on peut dire, qui dépasse de beaucoup la recherche scientifique, mais qui est aussi de l'artistique, la technique, et moi je vais jusqu'au droit. C'est-à-dire que dans toutes les... On avait commencé cette discussion en disant « est-ce que c'est inhérent à la conduite humaine ?» J'ajouterais effectivement dans toutes ces dimensions, et pas seulement scientifiques. Voilà.
Oui. Alors, il y a une chose aussi.
Mais
qui...
je veux dire quelque chose. Umberto Eco, il a écrit un livre sur le successful error, une hypothèse fausse qui donne une vérité qui n'aurait pas été trouvée sans cette hypothèse fausse. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent que la sérendipité est toujours une erreur sublime. Mais on peut faire des trouvailles sublimes sans qu'une erreur quelconque joue un rôle. Le vélo, par exemple, c'était un baron allemand qui n'avait rien à faire. Il n'était pas obligé à travailler pour l'agent comme Darwin. Il avait ce qu'on appelle maintenant un vélocipède, un vélo en bois avec les roues, sans chaîne, sans pédale, avec un guidon. Alors il s'amusait, peut-être dans son jardin, et il utilisait les guidons pour suivre la route, il se transportait avec ses jambes gauche et droite. Et à un certain moment, il découvre que le guidon qui était là pour suivre la route pouvait être utilisé, pas lui, il le faisait, pour se mettre en équilibre et pour rester en équilibre. Et du moment que ça était découvert, c'est une trouvaille pure, tous les ingénieurs de mécanique appliqués sont d'accord là-dessus, Jacques Villot était construit en profitant de ce phénomène. Et ce que j'aime beaucoup, Jacques Enfant en France, et des gens qui cherchent d'asile, ils apprennent à faire le vélo, ils sont obligés à redécouvrir cette découverte de Baron Dreis. Mais la grande différence est, pour le Baron, c'était quelque chose qui tombait du ciel, et pour les enfants, c'est quelque chose de connu. Mmh. C'est une redécouverte, en fait.
Alors, on va essayer d'avancer, et puis là, ça va devenir de plus en plus staccato, parce que on va prendre beaucoup d'exemples tout à fait passionnants. Il y en a un que je discuterai un petit peu, qui est dans votre livre. C'est la naissance donc des géométries non euclidiennes. Alors, vous remontez à un mathématicien du 17e. On peut discuter, hein, parce que c'est l'intense travail des mathématiciens au 19e, bien sûr, qui fait qu'on a remis en cause le célèbre postulat des parallèles. Et donc, soit de découvrir qu'un point mené hors d'une droite, de ce point passe une infinité, ou aucune parallèle, ou aucun. Parallèle, ou aucune ligne parallèle. Et c'est là un travail extrêmement soutenu. Je ne vois pas tellement, mais je ferme immédiatement la parenthèse, le rôle de la sérendipité. En revanche, En revanche, alors dans le droit fil, évidemment, de ce que vous avez dit concernant Röntgen, qui d'un seul coup, voyant, utilisant le rayonnement sortant d'un tube de Crookes, voit cette impression, donc sur du papier, il y a aussi, et là l'histoire est très jolie, il y a, alors d'abord au départ, l'idée d'un vrai génie, il s'agit de Poincaré, qui touchait à tout, qui a tout touché, peut-être avec Hilbert, le dernier grand scientifique qui a été dans tous les domaines scientifiques de son époque, et qui dit, tiens, ça pourrait être intéressant de regarder les phénomènes de phosphorescence, après avoir donc appris cette découverte des rayons X, en regardant ces phénomènes de phosphorescence, tiens, on pourrait peut-être trouver un nouveau type de rayonnement. Et Becquerel, qui était au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, gros spécialiste, il regardait tous les phénomènes de fluorescence, d'iridescence, ainsi de suite, ça le préoccupait tout le temps. Se dit, tiens, mais oui, mais
donc
c'est
l'idée
sûr.
De Poincaré disait à Becquerel, mais peut-être la fluorescence est aussi, donne aussi des rayons X.
Ouais. Alors, voilà. Il prend des selles d'uranium.
En testant si une fluorescence est un phénomène de rayon X, il trouvait une autre. Alors, c'était une idée fausse, en rétrospectif, c'est très facile à dire, a posteriori. Mais grâce à cette idée fausse de Henri Becquerel, avec laquelle Poincaré, avec laquelle Becquerel était d'accord, il a trouvé ce qu'on appelle maintenant la radioactivité naturelle.
Eh oui. Avec ses sels d'uranium.
Oui, c'est un exemple d'une hypothèse a posteriori faux qui a donné quelque chose qui était totalement non prévu, non prévisible de la physique de cette époque.
Oui.
Alors, ici à Paris.
Alors, petite question, je vous demanderai une réponse courte puisqu'il faut qu'on avance, malheureusement. Et voilà que nous sommes arrivés au mi-temps de ce rendez-vous. Toujours sur France Culture, toujours dans les rendez-vous de Continent Science et toujours, bien sûr, avec Daniel Boursier et Peg Van Handel, donc sur cette question de la sérendipité. Il y a une chose tout à fait étonnante, c'est évidemment la découverte par Max Planck des quantas,
oui,
du quantum d'action.
Un acte de désespoir. Il fait quelque chose contre cœur. Et ça apparaît d'être vrai.
Voilà. Alors évidemment, j'en rappelle les termes très rapidement. On fait chauffer donc une enceinte close et on regarde le type de rayonnement par un petit trou qui en sort. Et qu'est-ce qu'il est obligé d'admettre, le grand Max Planck, physicien classique s'il en est, que tiens, le rayonnement et la mesure de l'énergie du rayonnement n'avancent pas de façon continue, mais de façon discontinue.
Oui.
C'est comme si on avait une balançoire qui, au lieu de très gentiment bat son mouvement, sauterait de 1 mètre à 2 mètres à 3 mètres de façon complètement loufoque. C'est de la sérendipité, ça ou pas, à votre sens, et l'un et l'autre?
Au Pays-Bas, on le voit comme quelque chose. Parce qu'en en fait, il tombait sur quelque chose qu'il ne pouvait pas accepter. Mais il a accepté un peu comme mais qu'est-ce que ça donne quand l'on prend sérieux comme jeu en fait comme expérience de pensée et heureusement il a fait ça parce que c'est un peu comme Darwin était quelqu'un qui était très conservatif pas sur tout le terrain et il trouvait une théorie très révolutionnaire. Alors on appelle ça Darwin's delay, hein. Il a temporisé son théorie 20 années parce qu'il était la dernière personne à le publier. Mais Wallace, il passait avec la même idée et maintenant, il était très correct avec Wallace parce qu'ils ont fait ça ensemble.
Ouais.
Il
n'y
a jamais d'affrontement entre les deux, ce qui est très rare.
C'était vraiment le gentleman agreement vis-à-vis de la théorie. Et puis surtout, une très grande humilité de la part de Wallace.
Oui.
Et donc, voilà. Cela dit, ça a évidemment précipité Darwin pour écrire son grand livre. Alors, il y a un exemple aussi qui est très joli. Là, il est parfaitement humain, je trouve. Il est tiré de l'histoire des sciences, Daniel Boursier. C'est la plus belle invention de Humphrey Davy. Qu'est-ce qu'il dit, le Humphrey Davy? Il dit, parce qu'un beau jour, il est nommé Sir, Sir. Et donc, il dit, maintenant, je ne vais plus faire de conférences. Et à une de ces conférences vient le grand Faraday. Et là, il va dire... À la question, quelle est votre plus grande découverte? Et il va répondre Faraday.
Ouais. beau.
Oui, c'est magnifique, effectivement. Mmh. C'est toute la richesse de... Bon, on fera aussi un petit jeu sur la sérendipité, mais effectivement, c'est une découverte. Découvrir quelqu'un, rencontrer quelqu'un, découvrir quelqu'un, c'est aussi un phénomène de sérendipité, toujours, toujours dans une optique où qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qui en sort de positif de cette, oui, oui, de cette rencontre, hein ?
Oui. Alors, exemple célèbre, Freud travaille sur les névroses. Ça a été l'élève de Charcot, comme l'ancien, la salpêtrière. Et vous écrivez que, bingo, si je puis me permettre, ou en tout cas, je ne sais pas,
ciel,
Eureka.
Ciel.
Ciel. Bravo. Ciel, l'inconscient, il trouve l'interprétation des rêves. Magnifique exemple, encore.
Ouais. Et Jones, dans sa biographie de Freud, parle de sérendipité à propos de Freud.
Oui, c'est utilise très intéressant.
Il utilise,
ouais,
le mot.
Dans,
hein,
une note.
Il faut rappeler qui est Jones, donc c'est l'un des premiers élèves de Freud du côté anglais. Quoi, hein, c'est ça,
qui a écrit une biographie sur Freud et son travail.
Alors, on va faire Cocorico, voilà Pasteur qui rentre en scène. Il montre que l'agent de la fermentation, le célèbre agent de la fermentation biturique, a un bâtonnet microscopique qui est analogue à ceux du sang des animaux qui ont été affectés par la maladie du charbon. Or, il y avait deux autres, entre guillemets, toto, si je puis dire, en tout cas devanciers, qui avaient parfaitement observé ça et qui n'ont pas du tout le réflexe de la bonne interprétation.
Oui.
Magnifique.
Alors, ça, c'est... Il faut être préparé, pas seulement par connaissance, parce, mm-hmm, qu'il faisait, il voyait l'analogie avec ce que Yenna avait publié.
Mm-hmm.
Et Yenna avait ces idées de paysans en Angleterre qui pratiquaient déjà ce qu'on appelle maintenant la vaccination.
Mm-hmm.
Donc Pasteur était maître, un tout petit signe pouvait déclencher dans son esprit une pensée, une hypothèse qui était neuve, pas seulement pour lui, mais incapable à faire pour les autres. Dans la littérature de sérendipité, une donnée inattendue peut être une énigme. Aucune théorie peut le comprendre. Les Grecs, quand ils frottaient l'ambre, mm-hmm, ils voyaient que ça attire la poussière.
Ouais,
ils n'avaient aucune idée pourquoi. On parlait d'une pierre avec une âme, comme le magnétisme. Ils n'avaient aucune idée. Ça a duré 2000 années. Mais la sérendipité peut être aussi déclenchée par une anomalie, quelque chose qui est en conflit avec les théories régnantes.
Mm-hmm.
Mais ça peut être aussi une nouveauté qui n'est pas en conflit avec quelque chose. Alors, c'est un phénomène très polymorphe, la sérendipité. L'hasard peut jouer un rôle presque négligeable ou peut jouer un rôle presque crucial. Tu vois.
Mm-hmm. Alors, il y a un autre exemple, évidemment. Petite référence d'abord rapide. Évidemment, Pasteur disait qu'on n'interprète pas correctement quelque chose qu'on observe ou une découverte si on n'a pas l'esprit préparé. Je ferme l'explication, enfin, je ferme la citation, pardon. C'est autre exemple archi-célèbre, où vient se nicher la sérendipité. C'est évidemment la découverte par un autre grand physiologiste français, il s'agit de Claude Bernard, qui donc découvre, avec l'histoire des foies lavées, la fonction glycogénique du foie.
Je peux réagir là-dessus ?
En fait, réagissez. Parce que, ne tapez pas le micro, mais réagissez.
Tu m'as dit que je parle avec le bras. je viens d'une famille dans laquelle le théâtre est une valeur. Mon fils est metteur en scène.
Mais ce n'est pas un reproche.
Non, il a fait l'Académie de théâtre à Maastricht. Et ce qui est intéressant, que Claude Bernard, quand il était jeune, son ambition était à devenir dramateur.
Oui.
Il a écrit quelques pièces de théâtre.
Il a commencé par ça, oui.
Oui, les gens qui jugeaient ça disaient « tu n'es pas assez bien, c'est mieux à faire la médecine ». Il avait une carrière médiocre jusqu'à l'âge de 34 ans et après il est monté comme une étoile.
Oui.
Et ce qui est intéressant dans mon opinion, il est resté un dramaturge quand il écrivait sur ses propres expériences. Il avait un œil d'un quelqu'un qui aime le théâtre quand il parlait de ses propres expériences et les résultats. Il dit par exemple, il n'y a pas d'accident, le hasard n'existe pas. Ce qu'on appelle hasard, c'est un phénomène visible avec une cause non visible ou inconnue. Comme Voltaire, il dit, il n'y a point de hasard, ce qu'on appelle hasard, c'est quelque chose, c'est un phénomène de laquelle on ne connaît pas la cause. Alors, ce qui est intéressant, quand on est confronté quand on fait une expérience, ou c'est pas nécessairement dans un vélo, un Français qui est confronté avec un phénomène dans lequel il connaît pas la cause, on appelle ça hasard, et c'est intéressant à essayer, à s'humaniser. Qu'est-ce que peut être la cause? Et quand on a une idée, à le tester, parce que ça peut donner une route à un phénomène qui est neuf, pas seulement pour cet Français, mais pour tout le monde. Ça peut être un enfant, par exemple.
Mais oui.
D'où l'intérêt, justement, pour nous, enfin, je ne sais pas si on va aborder cette question, mais de réfléchir à comment transmettre, l'inattendu, mais au moins la possibilité pour, dans la pédagogie, dans l'enseignement, comment faire pour permettre à des gens, à des jeunes, dans l'apprentissage, d'avoir cette attente pour l'inattendu, justement.
Oui. Et ça, ouvrez vos mirettes. Ouais. Ça pourrait être un des principes pédagogiques.
Oui, oui.
Ouvrez grand vos mirettes.
Oui, oui. Et cessez de... du côté des pédagogues, ça implique aussi d'autres méthodes. De, justement, apprendre aussi des erreurs, apprendre comment détecter des erreurs dans des enseignements, etc. Et ça, c'est une partie importante pour nous de la sérendipité, c'est de rénover les méthodes d'enseignement, hein, et puis aussi de la recherche. De la recherche qui est uniquement déterminé par des programmes de management. Et ça, c'est important pour nous, de laisser des espaces de liberté, parce qu'il n'y a pas de créativité sans liberté.
Oui, d'où la réussite d'ailleurs pédagogique ou didactique d'expériences comme les mains à la pâte, où justement, on n'embête pas les gens, on leur donne des éléments et ils bidouillent. Ils mettent vraiment la main à la pâte. Et là, c'est une pédagogie des sciences qui est absolument formidable.
Alors moi, j'ai proposé aux Pays-Bas, il y a un travail pratique dans l'école. Mm-hmm. Mais jamais, moi j'ai fait gymnase et université à Groningen, jamais on a mis dans un travail pratique une observation surprenante, sans le dire avant, pour registrer qu'est-ce que les élèves ou les étudiants font avec ça. Alors j'ai proposé dans un journal pour les biologistes hollandais à faire ça, et qu'est-ce qu'on a fait? On a mis des graines de poivre dans l'eau pour une semaine, pour regarder si ce sont des petits oursins. Van Leeuwenhoek, le microscopiste hollandais, il pensait ça. Mais Van Leeuwenhoek, il ne voyait pas des aiguilles, mais il voyait quelque chose bouger. Alors, il a dessiné ça, et c'est comme ça qu'il a découvert ce qu'on appelle maintenant les bactéries. Et il y avait un professeur de lycée à Amsterdam qui a fait ça. Et les élèves étaient touchés. Il y avait une fille qui disait, mais je vois quelque chose bouger. Il a dit, alors, il n'y a pas d'épingle, on va essayer à illustrer ce qu'on voit bouger. De bactéries, de coques, de micro-organismes et tout ça. Et après, il a expliqué que Van Leeuwenhoek a découvert ce qu'on appelle maintenant bactéries comme ça. Et les élèves étaient touchés. Et les élèves qui n'ont pas vu ça, ou qui ont vu quelque chose bouger sans réagir là-dessus, ils apprennent de ça aussi parce qu'ils deviennent jaloux. Tu comprends? Et comme ça, une école ou une université peut découvrir un nouveau talent, un chercheur in spe.
Bien sûr, bien sûr. Alors, toute petite parenthèse, mais parce qu'il faut bien émailler d'exemples qui sont assez drôles d'une certaine manière.
Oui.
Il y a un monsieur, un Suisse, dont le prénom est Georges et dont le patronyme est de Mestcal, qui va se promener en montagne. C'est normal, hein, pour un Savoyard ou un Suisse, on va se promener en montagne. Et puis, on rentre le soir et on a les chaussettes qui sont complètement piquées de fruits de banane. C'est agaçant, la chaussette qui est piquetée de fruits de banane. Et qu'est-ce que ça va donner, Daniel Boursier?
Eh ben, ça va donner le velcro. Ça va donner le velcro. Donc, voilà typiquement comment une observation, on va dire empirique, hein, comment elle va être interprétée et elle va devenir une technique.
Oui. Alors, il y a un autre exemple aussi.
On appelle ça
aussi.
Bionique. Hein. On pique des idées de nature vivante.
De la nature.
Et moi, j'ai correspondé avec lui. Et dans son premier enveloppe, il y avait des grains. C'est presque un grain de poivre. Mais avec des petits crochets là-dessus. Tu comprends?
Et puis, ça pique dans la chaussette. Alors, autre exemple aussi formidable, toujours avec le grand pasteur. Il part, il est en Arbois, comme il y allait souvent, en particulier pour des raisons de vin, puisque, entre autres choses, on sait son rôle dans le fait qu'il ait, d'une certaine manière, sauvé la vigne en France. Et il a deux assistants, Roux et le second, je ne sais plus son nom, qui normalement doivent s'occuper des poules. et de leur donner, les pauvres, une alimentation qui est bourrée de choses toxiques. Et voilà que les deux assistants, zut alors, oublient à un moment, et cela pendant 3 semaines, de donner le poison expérimental aux poules. Et qu'est-ce qu'on observe, monsieur le médecin hollandais.
Non, le Pasteur, il découvre de ce que l'ANEC a découvert est aussi vrai pour d'autres maladies.
L'ANEC, donc.
Je me trompe. Non, Yana, il a découvert que quand on donne les liquides de variole de vache, oui, aux êtres humains, qu'ils deviennent ce qu'on appelle maintenant immunes pour le variole humain.
C'est ça.
Mais Pasteur, il découvre ça pour une autre maladie. Et ça, c'est une révolution, parce que après ça, on se demande, mais qu'est-ce qu'on peut vacciner encore après? Et il y avait une autre maladie, la rage, pour laquelle il a inventé la vaccination. Et ce garçon est devenu portier au Institut Pasteur.
Oui.
Et ça, c'est une propagande, parce que tout le monde qui voyait à cet institut, il voyait quelqu'un qui vivait, qui était encore vivant,
qui avait été sauvé.
Cause de son théorie, oui, qui marchait.
Je crois que c'était un petit Alsacien. En tout cas, le point important, c'est celui que vous soulignez, qui donc là engage la sérendipité, c'est que donc les deux assistants font une boulette, font mal leur travail. Et quand Pasteur revient, il comprend tout de suite, parce que évidemment les deux assistants vont redonner ce produit, ce toxique, d'une certaine façon. Et il dit, ah, c'est pas son terme, il viendra après, formidable, voilà, ça c'est l'immunité.
Oui. Alors,
on voit bien.
Ce n'est pas une plaidoye pour faire des erreurs, mais c'est une plaidoye pour si quelque chose, quand on observe quelque chose de surprenant, il faut penser à la possibilité que quelqu'un a fait une erreur, exprès ou non.
Alors, autre exemple, on s'achemine vraiment au terme, malheureusement, ça passe trop vite, que je trouve très, très intéressant, parce que très inattendu, là encore. Très inattendu, vous devez le connaître, le célèbre camerlingue Onnes, celui de la supraconductivité.
Ah oui.
Hein? Donc oui. Lui, ben, bien sûr...
Camerlingue Onnes, monsieur zéro absolu.
Ça. Oui,
oui, en France, on se moquait de lui.
Oui. Oui. Alors évidemment, c'est quand non, on...
ça, c'est, j'adore cet exemple. Son grand rêve... Il vient de mon village, à Groningue. Son grand rêve était, quand j'arrive aux températures absolument froides...
273, hein.
Oui, oui, je pense que les électrons gèlent aux atomes. Alors la résistance électrique sera...
gigantesque.
Gigantesque. Et à cause de ça, il mesurait la résistance électrique. Mais c'est exactement le contraire qui se passe.
Elle est
parce
nulle.
Que la résistance électrique devenait zéro. Et pourquoi il a gagné le prix Nobel? Il n'a pas seulement parce qu'il était capable d'arriver au zéro Kelvin, ce qu'on appelle maintenant. Non, il a découvert ce qu'on appelle maintenant la supraconductivité.
Conductivité.
Oui, dans quelques années. Hein.
Eh oui, celle qui... le principe physique...
Mais toute sa vie, ce qui est intéressant, toute sa vie, son but était arriver là. Alors quelqu'un qui a une grande vision peut aussi tomber sur une trouvaille, vous voyez.
Oui.
Il y a chercher systématiquement et trouver par hasard ne s'exclut pas. Ils sont complémentaires et les deux se renforcent.
Alors, il y a une suite à cette histoire et on va pratiquement conclure là-dessus. Malheureusement, tant il y a d'exemples passionnants dans votre ouvrage, à vous Daniel Bercier et à vous Peck Van Handel, c'est qu'il y a une suite. C'est que, alors, ça se passe en 86. Et en tant que journaliste scientifique et de toute façon Florian Delorme m'appuiera évidemment dans cette position, on est toujours extrêmement méfiant quand on annonce, que sais-je, la mémoire de l'eau, enfin quelques des sornettes comme ça. Et voilà qu'un jour on se met à parler de ce qu'on a appelé la supraconductivité à haute TC. Bon. Ce qui voulait dire, vous venez donc de dire qu'avec le travail de ce physicien, il faut atteindre des températures négatives en termes de Kelvin, invraisemblables, des moins 200 et quelques. Et puis là, Au début, la chose arrive, l'information, on pourrait presque croire qu'il pourrait y avoir de la supraconductivité à température ambiante. Bon, ça n'est pas le cas. Mais deux scientifiques du laboratoire d'IBM, en Suisse, je crois, il s'agit de Müller et de Berthnaus, vont montrer. Et là, ils auront le prix Nobel, évidemment, pour ça.
Oui. Mais ce qui est intéressant, que le matériel dans lequel ils trouvent ça était en origine un isolant. Ouais. Alors ça, c'est Jacques Français, c'est ça, c'est le contraire d'un conducteur ou un supraconducteur. Voilà. Mais c'est l'humour, c'est un practical joke, hein, ça. Et je pense que quelqu'un qui a un sens d'humour passif et ou actif est mieux pour la CNIPT, parce que c'est quoi l'humour ? C'est pas seulement un signe d'intelligence. L'humour, c'est un signe de quelqu'un à un œil pour l'inattendu et aussi pour réagir vite là-dessus. Tu comprends ? Et moi, si j'aurais été chef d'un labo et j'ai un boulot pour deux personnes et, avec la même qualification, et un a l'humour et l'autre n'a pas l'humour, c'est clair quelle serait mon préférence.
Alors je dirais donc pour conclure, merci en tout cas à Daniel Boursy, à Peck Van Andel d'être venu pour cet ouvrage de la sérendipité dans les sciences, la technique, l'art et le droit, avec comme sous-titre Le son de l'inattendu, chez cet éditeur qui fait que des choses tout à fait intéressantes. Et inattendu aussi, il s'agit des éditions L'Acte Même, en deux mots, L'Acte, L'ACT, plus loin, Même, M-E-N. Et puis je lancerai, allez, pour finir, amis chercheurs dans vos labos, eh bien, ayez de l'humour.
Merci.
Bonjour Florian Delorme.
Bonjour Stéphane Deligeorges.
Belle invention inattendue.
Très belle invention et puis en plus très joli mot, la sérendipité. Oui. J'avais une toute petite question Stéphane à vos invités si vous me permettez. Je me disais, est-ce qu'il n'y a pas une forme de subjectivité dans cette affaire ? Je m'explique. Si moi par exemple, prenons un exemple, parce que je n'ai pas trouvé d'exemple concret où ça fonctionnerait, mais si moi par exemple, disons que je recherche ce qu'on appelle, vous savez, le dernier ancêtre commun, le last human common ancestor. Oui. Disons que je cherche cette forme de vie, mais je ne la trouve pas. Vous êtes dans votre laboratoire à des milliers de kilomètres, Stéphane, et puis vous trouvez une forme de vie qui se trouve être à la fin cette forme de vie que vous cherchiez, là, le fameux Lucas, mais vous ne le saviez pas avant de le chercher. Est-ce qu'il n'y a pas, pour vous, il y a de la sérendipité dans votre affaire, alors que moi, je n'ai tout simplement pas trouvé ce que je cherchais. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une forme de subjectivité dans cette affaire ?
Alors, vous n'avez que 15 secondes pour répondre.
Non, il y a des gens qui font des trouvailles sans le réaliser.
Mais c'est...
Normalement, ce sont des machos qui regardent ce que j'ai trouvé. Et souvent, ils mentent là-dessus. Ils disent, oh, c'était par hasard, je cherchais ça. Et après, et du coup,
non, autre chose. C'est vrai qu'effectivement, il faut attendre d'être à Stockholm en train de recevoir un prix Nobel pour oser souvent avouer que certaines choses ont été découvertes avec un certain hasard. Et les plus grands chercheurs n'hésitent pas à un moment donné à le dire. Ce que ne montre pas toujours le format des articles scientifiques.
Ouais, bien sûr.
Allez Stéphane, je voudrais vous parler aujourd'hui de climat, et plus exactement de paléoclimat, c'est-à-dire du climat passé de la Terre, auquel on s'intéresse beaucoup, vous le savez, hein, vous n'êtes pas sans savoir que le climat peut fluctuer même sur des échelles assez petites de temps, de quelques années, sous l'effet de nombreux phénomènes naturels, pensons aux variations de l'activité solaire, pensons aux circulations océaniques, à des phénomènes comme El Niño, la Niña dans l'océan Pacifique. Et pour mieux comprendre donc, le dérèglement actuel, les chercheurs travaillent sur les périodes de réchauffement global qui ont eu lieu par le passé, évidemment, et on vient d'apprendre de nouvelles choses, justement, concernant le début du 19e siècle. Parce que si on regarde la période récente, disons les 5 derniers siècles, Stéphane, les carottes de glace du Groenland nous apprennent que la décennie la plus froide date d'il y a à peu près 200 ans, 1810-1819. Alors depuis longtemps, les scientifiques essayent de comprendre les raisons de ce réchauffement général de la planète. Ils viennent de dresser de nouvelles conclusions, justement, grâce à un nouvel outil qui permet de mieux analyser les retombées de sulfate d'origine volcanique, Stéphane, dans les précipitations de neige en Antarctique et au Groenland. Parce que vous savez, Stéphane, que lorsqu'on s'intéresse aux réchauffements globaux au début du 19e siècle, surtout, l'activité volcanique n'est jamais très loin. Alors, la paléoclimatologie nous informe que 1810-1819 figure parmi les années les plus froides de ces cinq derniers siècles. Ce qu'on savait déjà, Stéphane, c'est que s'agissant des activités volcaniques, durant cette période, il y avait eu en 1815 une éruption très importante du Tambora. C'est un volcan d'Indonésie qui est rentré en éruption le 10 avril 1815. Vous voyez que c'est extrêmement précis. Et pour cause, hein, c'est la seule éruption à ce jour connue par les scientifiques. C'est une éruption qui avait été très meurtrière. On parle à l'époque de 70 000 morts, 70 000 victimes. Une éruption qui avait déversé de gigantesques quantités de poussière dans la stratosphère à plus de 15 km d'altitude, parce que vous savez, c'est quand on arrive à une certaine altitude que ça devient important pour le climat et qu'il y a des incidences sur le climat. Là, 15 km d'altitude, c'est suffisant pour avoir des incidences sur le climat. Donc, ce qui a eu pour effet de transformer le dioxyde de soufre qui avait été envoyé par ce volcan en petites gouttelettes d'acide sulfuré qui agissent comme un véritable parasol qui va réfléchir la lumière du soleil et qui, in fine, va baisser l'énergie solaire reçue et donc baisser la température au sol. Restait à expliquer, bien sûr, la période 1810-1815, sur laquelle on n'avait pas d'informations. Et c'est là, Stéphane, qu'on a de nouvelles choses. Les travaux dont je vous parle ont été publiés très récemment, la semaine dernière, dans Geophysical Research Letters. Hein. Ils ont même fait l'objet de ce qu'on appelle un highlight. Hein. C'est donc c'est dire si c'est une information importante. Donc, des scientifiques de la National Science Foundation américaine, de l'Institut polaire français Paul-Émile Victor, de l'INSU aussi, qui est un institut du CNRS, ont extrait la strate de neige qui correspond donc à cette fameuse période. Ils ont déterminé les proportions de plusieurs isotopes de soufre, le soufre 32, 33, 34, 36. Et peut-être quand même, Stéphane, rappelons, hein, quand on parle d'isotopes, on parle d'atomes qui sont les mêmes, mais qui n'ont pas le même nombre de neutrons. Hein. Le neutron étant un constituant de l'atome. Et donc, les différences de concentration entre ces isotopes ont montré que ces espèces chimiques ont nécessairement réagi entre elles. Or, ce type de réaction chimique n'est possible qu'après une éruption volcanique, justement. Ah. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire qu'il y a forcément eu une autre éruption volcanique. À ce moment-là, il y a dû avoir, au début de 1809, une éruption de volcan. Alors, on n'est pas capable de dire où exactement. On sait quand, début 1809, on ne sait pas où, on sait que ça doit se passer à peu près au niveau des tropiques. C'est un cataclysme donc qui est absolument inconnu des hommes, mais qui a pourtant bel et bien eu lieu et qui a modifié pour 5 ans le climat sur Terre. C'est un résultat qui conforte évidemment encore un peu plus l'importance du rôle de l'activité volcanique dans la modulation du climat terrestre. On le savait déjà, mais voilà encore une information de plus. Et puis, autre conséquence peut-être importante aussi, c'est que, même très importante, c'est que c'est un résultat qui va permettre d'affiner encore davantage les modèles climatiques. Hein. Le forçage climatique dû au volcan, à l'activité volcanique, va évidemment être mieux pris en considération, Stéphane.
Eh oui, comme quoi le puzzle est compliqué. Hein, ça. Et c'est bien quand il y a une pointe d'avancée comme ça.
Et il n'y a pas toujours de sérendipité. Et là, il n'y en a pas.
Non, c'est un tout petit aspect de la vie humaine. Mais crucial, quelquefois.
Absolument.
Pas plus.
Et passionnante.
Alors, nous voilà arrivés lentement à ce rendez-vous de Continent Science, bien sûr. Merci de votre attention et de votre fidélité. Vos remarques et vos critiques sont toujours les bienvenues. Aux manettes, aujourd'hui, Claude Courteau, le grand Claude Courteau. Catherine Madure, Catherine Donnet, Julie Bérécy, Stéphane Delis-Georges. Si vous voulez nous écrire ou si vous voulez nous réécouter, n'importe où, n'importe quand, reportez-vous au site internet franceculture.com, émission Continent Science. Continent Science est aussi balado-diffusé. Vous avez donc la possibilité de nous enregistrer sur votre baladeur pour une écoute d'une plus grande liberté encore. Il me reste à vous souhaiter, bien sûr, une très belle fin d'après-midi sur France Culture. Et dans quelques instants, à 15h très exactement, vous allez retrouver les lundis de l'histoire.